tout de suite, c'est l'heure du journal. Aurélie Kiefer, bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Alors que les constructeurs automobiles demandent l'aide de l'État pour gérer la transition écologique, Faurecia et Michelin s'allient pour créer un leader mondial des systèmes de piles à hydrogène. Les deux équipementiers français ont signé un protocole d'accord. Bernard Tapie devant le tribunal correctionnel de Paris. Son procès pour escroquerie s'est ouvert plus de 10 ans après l'arbitrage qui avait accordé à l'homme d'affaires 403 millions d'euros. Au lendemain du retour d'Abdelaziz Bouteflika à Alger, les opposants à un cinquième mandat du président algérien restent mobilisés. Des juges, des avocats et des greffiers se sont mis en grève aujourd'hui. Le Venezuela, toujours dans le noir, les habitants sont privés d'électricité depuis jeudi soir. L'opposant Juan Guaido demande au Parlement de voter l'état d'urgence. La transition vers les véhicules électriques et autonomes ne se fait pas sans difficulté. Les acteurs de la filière automobile étaient réunis ce matin à Bercy pour évoquer la crise du diesel et plus généralement l'avenir du secteur. Présidents de région, représentants syndicaux, constructeurs automobiles et équipementiers étaient présents. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Aurélie Kiefer.
Les inquiétudes sont fortes, notamment concernant l'emploi.
Oui, car à très court terme, ce sont pas moins de 5500 postes qui sont menacés, comme chez Bosch à Rodez, en Aveyron, ou encore dans les fonderies du Poitou. La voiture à hydrogène et électrique, qui nécessite 40% de manœuvres en moins, ne pourront pas absorber à elles seules l'ensemble du salarié du diesel qui devrait perdre leur emploi. La reconversion passera donc en partie par de la formation pour changer de métier, avec des secteurs où la demande est très importante, comme dans l'aéronautique, estime Alain Rousset, président de la région Aquitaine, qui était présent ce matin à la réunion à Bercy.
Et qu'on va doubler le nombre d'avions qui va voler dans le monde, il va falloir des pièces pour assembler ces avions. C'est des pièces soit métalliques, soit en composite. Mais il y a à se tenir prêt à cette révolution industrielle. Il ne faudra pas qu'on loupe les deux révolutions, la transition énergétique des voitures et puis le doublement du nombre d'avions.
Du côté des syndicats de l'automobile, on est plus sceptiques, car la fin du diesel pourrait détruire jusqu'à 250 000 emplois d'ici 2040, estime Brahim Aitatman, représentant Force ouvrière sur le site PSA de Poissy dans les Yvelines, en région parisienne.
Il ne faut pas oublier que l'automobile ne fait pas vivre que l'automobile. Elle ne fait pas vivre que les sites traitants directs. Vous avez aussi l'entreprise qui travaille de façon indirecte pour l'industrie automobile. Je prends par exemple le nettoyage, la restauration. Elle ne travaille pas directement pour l'automobile. Mais elle participe au bon fonctionnement dans ces entreprises. Là aussi, il y aura des pertes d'emplois.
Avec le durcissement des normes anti-pollution imposées par Bruxelles, qui doivent baisser de 37,5% d'ici 2030, il y a donc urgence à la fois pour les constructeurs et le gouvernement. Une prochaine réunion d'étape avec les acteurs présents ce matin est prévue dans les 3 prochains mois.
Hakim Kasmi. Ensemble, ils veulent créer un champion français de l'hydrogène. Les deux équipementiers tricolores, Michelin et Faurecia, annoncent leur alliance en vue de devenir leader de la pile à combustible. Bonsoir Anne Lorchouin.
Bonsoir Aurélie.
Ces dernières années, Michelin et Faurecia ont déjà investi des dizaines de millions d'euros dans cette technologie qui permet de transformer de l'hydrogène en électricité et donc d'alimenter le moteur électrique d'un véhicule. C'est vraiment un secteur d'avenir.
Alors c'est à peu près impossible à dire aujourd'hui, mais effectivement, l'hydrogène apparaît comme le nouvel horizon de la voiture non polluante, en tout cas auprès des équipementiers automobiles français. En témoigne donc cette alliance entre Michelin et Faurecia, autour d'une start-up grenobloise Symbio. En témoignent aussi les nombreux investissements et rachats réalisés ces derniers mois par d'autres équipementiers dans cette même technologie, Bosch ou Continental en Allemagne ou encore Plastic Omnium en France. Une technologie dont on ne sait pas à ce stade si elle aura le succès et l'efficacité escomptée, mais elle est le moyen pour ces équipementiers d'investir eux aussi dans des technologies décarbonées face à des constructeurs dont certains comme Renault ou PSA ont eux plutôt misé sur le tout électrique. Si le pari de l'hydrogène s'avère gagnant, les équipementiers français auront une longueur d'avance sur les constructeurs. Le rapport de force jusqu'ici en leur défaveur s'inverserait donc. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que l'hydrogène fonctionne. Des voitures à hydrogène sont en vente sur le marché européen. Le gros avantage de cet hydrogène, outre qu'il ne rejette que de la vapeur d'eau, c'est son autonomie jusqu'à 600 km avec un seul plein. Gros inconvénient par contre, les pouvoirs publics français n'ont jusque-là pas misé un copec sur son développement. Résultat, l'Hexagone compte tout au plus une dizaine de pompes à hydrogène sur tout le territoire. Et puis ces voitures coûtent cher, 70 000 euros au bas mot. Le pari de Faurecia et de Michelin, c'est donc que leur association conduise à la fois à rendre cette technologie compétitive locomotives et à signaler au pouvoir public qu'il serait temps d'investir eux aussi.
Anne-Laure Chouin. Première journée d'audience du procès de Bernard Tapie pour escroquerie. En 2008, un arbitrage avait permis à l'homme d'affaires de se voir attribuer 403 millions d'euros pour solder son vieux litige avec le Crédit Lyonnais. Arbitrage annulé depuis pour fraude. 5 autres prévenus comparaissent aux côtés de Bernard Tapie, dont l'actuel patron d'Orange, Stéphane Richard. Le compte-rendu d'audience de Florence Turm.
À la rubrique profession, Bernard Tapie a déclaré « acteur ». Et le prévenu se fend d'un petit sourire lorsque la présidente du tribunal le mentionne à la barre, puis égrène son casier judiciaire avant d'entamer l'examen des demandes de renvoi et des questions de procédure. Costume bleu marine, cheveux blancs, amaigri, les traits tirés, Bernard Tapie retrouve toutefois sa fougue passée à la suspension d'audience. Improvise une conférence de presse au milieu de la salle, refait les comptes de l'affaire, ironise sur ses relations avec Nicolas Sarkozy avant de se rasseoir sur cette formule « Je m'interdis tout commentaire jusqu'à la fin de ce procès ». Une nouvelle étape clé dans le marathon judiciaire engagé depuis plus de 20 ans après l'arbitrage controversé de 2008 face au Crédit Lyonnais, arbitrage qui va octroyer 405 millions d'euros à Bernard Tapie. 405 millions que l'homme d'affaires sera condamné à rembourser 7 ans plus tard, mais qu'il n'a jamais restitué. Pour ses créanciers, la dette s'élève désormais à près de 525 millions avec les intérêts. Mais l'avenir des sociétés de Bernard Tapie reste aujourd'hui suspendu à une décision du tribunal de commerce de Paris qui doit trancher sur une demande de liquidation judiciaire. Reste à savoir désormais si la fraude établie par la justice civile constitue aussi un délit pénal, en l'occurrence escroquerie et détournement de fonds publics. C'est là le véritable enjeu de ce procès où Bernard Tapie encourt jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende, pas même le centième de la fameuse créance.
Florence Turm au palais de justice de Paris. Plusieurs hommes saisissent la justice pour faire reconnaître la gravité des effets secondaires provoqués par un médicament contre la calvitie. Le finastéride, plus connu sous le nom de Propecia, entraîne des problèmes physiques et psychologiques qui perdurent après l'arrêt du traitement, Tarach Legal.
Oui, c'est un produit qui joue sur la testostérone et plus largement sur l'ensemble du système hormonal. Et dans 20% environ des cas d'Ilavefin, l'association qui regroupe les victimes du finastéride en France, eh bien les hommes subissent des effets secondaires sur la libido, l'érection, mais aussi le psychisme avec des dépressions, des idées suicidaires, également parfois des troubles musculaires, de la mémoire, du sommeil, de la thyroïde. L'association créée en 2017 par une maman qui a perdu son fils de 25 ans regroupe environ 250 membres. 3 malades vont porter plainte via maître Charles-Joseph Houdin dans les jours qui viennent. 70 dossiers seraient prêts, l'objectif étant d'obtenir une indemnisation du laboratoire MSD, Merck, Shark et Dohme, le premier à avoir commercialisé la molécule. Autorisé en 1999, le finastéride est jugé suspect depuis 2006 en Suède, avec une notice modifiée en 2009 en Suède, donc, mais aussi en Italie, en Grande-Bretagne. En France, il a fallu attendre 2012 pour voir mentionner des problèmes de libido et encore 5 années de plus pour qu'on évoque le suicide, rappelle Sylviane Millon-Mathieu.
Fin 2017, donc avec l'ajout de la dépression et des idées suicidaires, les labos fabricants étaient tenus de modifier les notices, mais le souci, c'est comme il n'y a pas eu rappel des stocks, nous avons malheureusement toujours aujourd'hui des notices avec un défaut d'information.
Et il n'est pas mentionné combien de temps durent les effets secondaires ou c'est mentionné ?
Sur la durée, donc, sont logiquement maintenant mentionnés en ce qui concerne l'altération sexuelle et psychiatrique des effets persistants à l'arrêt du traitement. Mais il n'y a pas plus d'indications puisque nul ne peut dire. Nous avons un recul d'à peu près 20 ans au niveau des victimes. Et je ne sais pas comment ces gens iront dans 5 ans, dans 10 ans.
Avec son association, l'Avefin, Sylviane Millon-Mathieu plaide pour une interdiction de ce médicament dont les effets persistent des années après l'arrêt. Aucun pays n'a franchi le pas pour l'instant. 15 000 hommes prennent chaque mois du finastéride en France. C'est 2 fois moins qu'en 2010, mais c'est toujours un nombre très élevé.
Tarach Legal. La maternité de Bernay dans l'Eure a officiellement fermé ce matin et la justice a rejeté le recours en référé contre cette décision de l'État. La grille de l'hôpital a été ornée de doudous par les opposants à la fermeture. Ils soulignent que les futures mères devront désormais se rendre à Lisieux ou à Évreux, à 30 voire 1 heure de route. Un centre périnatal de proximité doit ouvrir dans les locaux de la maternité. Une minute de silence a été observée à l'ouverture des travaux du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Assemblée générale des Nations unies. Une minute de recueillement à la mémoire des 21 personnes affiliées aux Nations unies tuées dans l'accident d'avion d'Ethiopian Airlines. Au total, 157 personnes sont mortes dans l'accident de ce Boeing dimanche au sud-est d'Addis Abeba. Aujourd'hui, les boîtes noires ont été retrouvées, Vincent Dublange.
C'est ce qu'a annoncé Ethiopian Airlines par communiqué. L'enregistreur des données techniques du vol et celui des conversations entre le pilote et son copilote ont donc été déterrés. Déterrés car les premières indications sur les lieux du crash laissent à penser que le choc a été vertical et très violent. Le cratère est immense, les débris et les restes humains ont parfois été enfoncés dans la terre. Le travail de recueil par les agents de la Croix-Rouge éthiopienne est compliqué. Viendra ensuite le temps de l'identification. Interpol pourrait apporter son concours selon l'ambassadeur américain. Le diplomate a aussi annoncé l'arrivée mardi de 6 enquêteurs de son pays. Depuis ce matin, des experts chinois sont déjà à pied d'œuvre. On ne sait pas quel rôle ils vont jouer exactement. Le bureau d'enquête français, le BEA, pourrait aussi être concerné puisque le moteur est en partie fabriqué par la société française Safran. Avec les boîtes noires, ils devront répondre aux nombreuses questions sur ce crash et notamment celles qui brûlent aujourd'hui beaucoup de lèvres. Le modèle B737-8 MAX de Boeing est-il en cause? Le constructeur américain a aussi promis d'envoyer ses experts.
Vincent Dublange, notre correspondant en Éthiopie. Et puis l'action Boeing a fortement chuté à Wall Street après la décision de plusieurs compagnies aériennes de suspendre l'exploitation de leur flotte de B737 MAX 8. La mobilisation populaire ne faiblit pas en Algérie. Aujourd'hui, ce sont des hommes de loi, juges, avocats et greffiers qui ont donné de la voix et dénoncé la candidature du président Bouteflika au pouvoir depuis 20 ans pour un cinquième mandat. On retrouve Leïla Berhato à Alger.
Ce lundi, des manifestations d'avocats ont rassemblé des centaines de personnes à Oran, Chlef, Tizi Ouzou, Béjaïa ou Alger. Dans la capitale, les employés de la Cour de justice ont eux aussi manifesté. Dans les rassemblements, les slogans demandent le respect du droit et rejettent le cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Alors que le Conseil constitutionnel doit annoncer d'ici 48 heures quels sont les dossiers de candidature qu'il a validés, des magistrats se sont constitués en organisation syndicale et ont annoncé qu'ils refusaient d'encadrer l'élection présidentielle si elle ne se passait pas dans le cadre de la loi. Selon des militants des droits de l'homme, certains des participants ont ensuite été convoqués par l'inspection générale. La menace est importante puisque ce sont les magistrats qui sont chargés de participer à la surveillance des élections, mais aussi chargés de valider les résultats du scrutin. Dans l'après-midi, le ministre de la Justice a réagi en rappelant que les magistrats devaient se conformer à l'obligation de réserve et le président du syndicat national des magistrats a lui aussi critiqué la participation au mouvement de protestation.
En Syrie, l'opération de reconquête de Baghouz a de nouveau ralenti. Les forces démocratiques syriennes, soutenues par des frappes aériennes de la coalition internationale, progressent lentement dans le dernier réduit des djihadistes du groupe État islamique. Aurélien Collier, vous suivez cette offensive dans l'est de la Syrie. Les combats ont été relancés hier soir, où en est-on ?
18h heure locale hier soir, effectivement, une fois la nuit tombée, reprise des bombardements aériens, des tirs d'artillerie et avancée au sol des forces démocratiques syriennes. Alors difficile d'avoir une information précise sur cette avancée, mais clairement l'étau se resserre sur les derniers irréductibles de Daesh qui sont maintenant cantonnés à quelques maisons et ce qu'il reste du camp informel où étaient encore la semaine dernière des milliers de civils. Depuis le début de la matinée, c'est plus calme, quelques frappes aériennes parfaitement visibles du poste avancé où je me suis rendu ce matin, le bruit distinct et le panache de fumée derrière. Toujours très ciblé ces frappes, quelques échanges de tirs également qu'on entend en permanence. Les combats et les frappes depuis hier auraient fait à peu près 150 morts chez les djihadistes selon les forces démocratiques syriennes qui estiment qu'ils sont désormais quelques centaines seulement à l'intérieur de l'enclave.
Alors on sait que c'est la présence de civils, notamment de familles de djihadistes qui a ralenti l'assaut final. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour ces civils ?
La reprise de l'assaut hier de la pression militaire a provoqué de nouvelles sorties ce matin. Un commandant des forces démocratiques syriennes m'a dit que près de 300 personnes avaient fui l'enclave. Djihadistes qui se sont rendus avec leurs familles. Beaucoup de blessés, des blessés graves que les forces démocratiques syriennes n'ont pas voulu que les journalistes voient. Alors qu'en allant vers le front, en principe, on passe toujours à côté de l'endroit où ces civils arrivent, où ils sont fouillés, triés, avant d'être transférés vers le nord, vers des camps pour les femmes et les enfants, vers des centres d'interrogatoire pour les hommes. hommes, eh bien, pour la première fois aujourd'hui, on a emprunté une route qui ne passe pas par cet endroit. Alors, soit ce sont des images de civils blessés que les forces démocratiques syriennes ne veulent pas vraiment montrer, elles qui disent vouloir protéger ceux et celles qui n'ont pas pris les armes, même les familles de djihadistes. Soit il y a dans ces hommes, ces djihadistes qui se sont rendus ce matin, le noyau de l'organisation État islamique, des commandants, des étrangers qui intéressent particulièrement les forces démocratiques syriennes, les forces spéciales ou les services de renseignement américains, britanniques ou encore français qui sont très discrets, quasi invisibles, mais évidemment présents.
Aurélien Colli, envoyé spécial de France Culture en Syrie. Le Venezuela vient de passer plus de 3 jours sans électricité. La quasi-totalité du territoire est privée de courant. Le gouvernement dénonce un sabotage qui serait orchestré par les États-Unis. L'opposition, elle, accuse les autorités de ne plus entretenir le réseau électrique depuis des années. En attendant, le pays est paralysé et les Vénézuéliens tentent de survivre. Le reportage à Caracas de Benjamin Delisle.
Depuis vendredi, la plupart des commerces et des supermarchés sont fermés à Caracas. À cause de l'hyperinflation, les billets ont presque disparu et la panne de courant rend les terminaux bancaires inutilisables. À l'entrée de Petare, le plus grand bidonville du Venezuela, des centaines de personnes comme Maria attendent devant des petits commerces de générateurs.
Il n'y a presque plus aucun magasin avec de l'électricité et du réseau pour payer. Il n'y a plus d'argent liquide, donc sans réseau, les gens ne peuvent plus payer.
Après 2 heures d'attente, Francisco peut enfin faire ses courses. Comme son frigidaire ne fonctionne plus, il doit faire des choix.
On essaie d'acheter des aliments non périssables, du riz, de la farine, des œufs, des choses qui n'ont pas besoin d'être réfrigérées et qui peuvent être conservées.
Derrière le comptoir, Ingrid, la vendeuse, approuve de la tête. Depuis vendredi, elle a perdu tout ce qu'elle gardait au réfrigérateur.
Toute la viande que j'avais a pourri, j'ai dû tout jeter à la poubelle. L'équivalent d'un mois de salaire envolé, comme si je n'avais rien fait, j'ai travaillé pour rien.
Toutes ces personnes qui attendent sont issues de quartiers particulièrement populaires. Peu leur importe de savoir si la panne est le produit d'un sabotage ou d'un mauvais entretien du réseau. Ils veulent simplement que cela s'arrête, que le Venezuela redevienne un pays normal.
Et l'opposant vénézuélien Juan Guaido appelle le Parlement à voter l'état d'urgence. Il pense que cela pourrait faciliter l'entrée de l'aide humanitaire dans le pays. 8 ans après la catastrophe de Fukushima, le gouvernement japonais et l'entreprise TEPCO continuent de gérer les conséquences de l'accident nucléaire. Le 11 mars 2011, 3 réacteurs étaient entrés en fusion et depuis, il faut les arroser sans relâche pour les refroidir. Cela produit chaque jour des tonnes d'eau radioactive qui s'accumulent dans de gigantesques citernes et la centrale est aujourd'hui au bord de la saturation. Notre correspondante Raphaël Briot s'est rendue sur place.
Téléphone, clé, portefeuille, on se défait de tout quand on arrive à la centrale de Fukushima Daiichi. On enfile ensuite un simple masque chirurgical et un casque, car 96% du site est désormais accessible sans combinaison. Et 8 ans après la catastrophe, on découvre un chantier nettoyé, bétonné, coloré. Dans un bâtiment neuf, avec vue sur les réacteurs, Kanji Abe, employé de TEPCO, déroule méthodiquement ses diapositives.
La suivante, s'il vous plaît. Le démantèlement de la centrale devrait prendre 30 à 40 ans. C'est un très long processus. La dernière maintenant. Le site des réacteurs numéro 1 à 4 est rempli de réservoirs. Ils contiennent de l'eau chargée en tritium.
L'eau radioactive, c'est le dossier brûlant de la centrale de Fukushima. Chaque jour, des tonnes de liquide sont contaminées par les réacteurs qui ne sont plus étanches. L'eau est ensuite traitée, mais elle contiendrait encore du tritium, un élément radioactif qu'il est impossible de filtrer avec les techniques actuelles. Déjà, 1 millier de citernes ont été construites, l'équivalent de 500 piscines olympiques dont TEPCO ne sait que faire. De l'avis des experts, le rejet en mer est la meilleure solution. Mais les pêcheurs de la région sont farouchement opposés, comme en témoigne Toyohiko Hirata au centre de pêche d'Iwaki.
Depuis 2015, aucun poisson testé ne dépasse les normes fixées par le gouvernement. La contamination est donc en baisse dans les océans. Nous sommes donc contre le rejet en mer car les rumeurs néfastes reprendraient de plus belle et pénaliseraient ainsi la préfecture de Fukushima.
Les pêcheurs sont d'autant plus méfiants qu'en septembre, TEPCO a reconnu son mensonge. L'eau ne contiendrait pas seulement du tritium, mais de multiples éléments radioactifs. Il faudra donc traiter une seconde fois 80% des stocks, ce qui complique encore un rejet en mer qui semble inéluctable.
Raphaël Brio à Fukushima. À Tokyo, un hommage national a été rendu aux victimes et des bouquets de fleurs ont été déposés par les familles des disparus sur la côte sinistrée. Car si le séisme et le tsunami ont directement causé la mort de 18 430 personnes, moins de 16 000 corps ont été retrouvés. Par ailleurs, on considère que les décès par la suite de 3 700 personnes découlent directement du drame. Demain mardi, le temps sera calme le matin. Les ondées se concentreront près de la Manche. Mais ensuite, à la mi-journée, pluie et vent toucheront l'ouest de la Bretagne, s'étendront ensuite à tout le nord-ouest avant de gagner les Hauts-de-France et la région parisienne en fin d'après-midi et le nord-est en soirée. Les températures minimales iront de moins 3 à 6 degrés. L'après-midi, il fera 10 à 15 au nord de la Loire, 13 à 18 au sud, 18 à 22 au sud de la Garonne. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.